Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service en ce lundi 18 février. Il reste 10 jours!
Oui, ça s'en vient, ça s'en vient. Il y a moins de jours au mois de février.
Oui, c'est une année bisextile. On gèle ce matin, bon.
Légèrement.
Oh, c'est humide. Roger, oui. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Sébastien à la régie, bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour.
Vous nous parlez de quoi ce matin, Roger?
Ben là, j'ai un long
pendant
papier.
La première demi-heure?
J'ai un long papier consacré à Pierre-Yves McQueen.
McSween.
Pas McQueen.
Il y a Steve McQueen.
C'est pas tout à fait pareil. Non, mais c'est un phénomène.
Hein? Oui. C'est... oui.
Alors, l'actualité
un phénomène médiatique, effectivement.
L'actualité lui consacre un long papier.
Ah, ben c'est bon. Pour ma part, j'ai une bonne nouvelle de cinéaste. Je vais vous parler de la Berlinale, le Festival du film de Berlin. Et je vous parlerai également des petits pots. Je ne vous dis pas lesquels. Des petits pots en Montérégie.
Dans les petits pots, les meilleurs onguents, qu'on
dit. Oui, dans les grands, les excellents. Alors, Roger.
Oui, alors on y va. On a encore besoin de Pierre-Yves McSween par Marc-André Sabourin, qui l'a rencontré et a rédigé un texte aussi en introduction. Je commence par celui-là. Il dit, Pierre-Yves McSween a écrit son livre de finances personnelles « En as-tu vraiment besoin? » en espérant en vendre 10 000 exemplaires, un succès selon les standards québécois. 2 ans après sa publication, l'ouvrage est devenu un phénomène culturel en voie de franchir les 200 000 exemplaires vendus. Son auteur ne promet pourtant pas la recette pour devenir millionnaire. Le comptable de 39 ans propose plutôt des trucs pour ne pas finir dans la misère. La question « En as-tu vraiment besoin? » est devenue sa marque personnelle qu'il répète ad nauseam dans son livre, ses chroniques à la radio, dans les journaux, dans les revues. Sur toutes ses tribunes, Pierre-Yves McSween raille les Québécois qui se plaignent de manquer d'argent, mais qui ne sont pas conséquents dans leurs choix. Vous allez dans le sud chaque hiver, vous roulez dans une voiture de l'année, vous vivez dans une grosse maison. Si vous êtes dans la dèche, c'est votre faute. Ce discours en énerve plus d'un, et il le sait. Je suis comme la madame superfit qui te dit de bien manger, c'est sûr que je tape sur les nerfs. Le comptable atypique s'en moque. Il est habitué à déranger. Au début de sa carrière chez Ernst & Young, il faisait déjà jaser ses collègues tirés à 4 épingles avec ses cheveux longs. Pour certains Québécois, la méthode McSween, directe, crue, drôle et disons moralisatrice, est peut-être le coup de pied dans le derrière qui manquait pour prendre leurs finances en main. Pierre-Yves McSween, en a-t-on vraiment besoin? Si on se fie au taux d'endettement des Québécois, la réponse est oui, oui, oui. Question que lui pose le journaliste que j'ai identifié, je pense, c'est Marc-André Sabourin. Un comptable qui écrit un livre sur les finances personnelles, ce n'est pas la recette traditionnelle d'un best-seller. Comment expliquez-vous ce succès? Réponse, c'est un livre baveux. Personne n'avait fait ça avant, parler d'argent avec le sourire. Quand quelqu'un parle de finances d'habitude, c'est un monsieur sérieux en veston-cravate, avec les cheveux fraîchement coupés. Moi, je ne fais pas de théorie. Je ne dis pas « Voici 10 conseils pour devenir riche. Devenir riche, ce n'est pas vrai que c'est à la portée de tout le monde. Mon message, c'est « Comment ne pas devenir pauvre ?» Et mon livre se lit bien. Il a 43 chapitres, courts. Tu en lis un par jour et tes finances personnelles vont aller mieux. Cela fait 2 ans que vous rencontrez des lecteurs lors des activités et dans la rue. Qui sont-ils? C'est tout le monde. Des gens endettés qui rêvent d'autre chose, des retraités qui disent « Oui, moi, c'est comme ça que je fais ma vie ». Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont reçu le livre en cadeau parce qu'on voulait leur faire passer un message et qui ne l'ont pas lu. Mais moi, je vise les 15-35 ans. Eux, les choix qu'ils font aujourd'hui vont complètement changer leur vie. Pour les autres, il est un peu tard. Les bons choix en finance, c'est comme en nutrition, ça c'est la question. Le défi n'est pas tant de les connaître que de les appliquer. Pourquoi est-ce si difficile? Depuis que tu es né, tu es bombardé de publicité qui dit que tu dois consommer pour être heureux. Tu n'avais même pas 5 ans que tu voulais déjà des choses, un vélo, une piscine. Tu veux que tes parents aient un nouveau char. Et là, à 16 ans, tu reçois ton premier chèque de paye et il faudrait que tu économises. Hey! Comment tu veux te battre seul contre des années de brainwashing? En plus, tes amis te jugent. Si tu ne fais pas comme eux, c'est sûr que c'est difficile. Vous semblez être parvenu à vous extraire du modèle de consommation. Comment s'est fait le déclic? Quand j'étais adolescent, mes parents ont eu de gros problèmes financiers. J'ai vite compris que si je voulais aller à l'université, j'allais devoir payer moi-même. Alors je suis entré chez McDo à 16 ans. Quand tu gagnes 6 piastres et 10 $ à tourner des boulettes, tu comprends que si tu veux te faire une place dans le monde, tu dois dépenser le moins possible. Je m'achetais pratiquement rien. J'avais un gilet à ma graduation. C'était, il n'est pas trop de bonheur. Il avait gagné ça à un concours radiophonique.
C'est bon.
Et puis, il a porté le même manteau de la troisième année jusqu'en première année universitaire. Ça avait payé 80 $ chez l'équipeur.
C'est la simplicité volontaire.
Ah oui, très, très. Alors, j'y reviens un peu tout à l'heure. Là, pour continuer à parler.
Merci. Alors, une bonne nouvelle en ce lundi matin, c'était le Festival du film de Berlin, le Berlinale. Mm-hmm. Et nous avons deux cinéastes qui ont remporté des prix, le long-métrage Jeunesse et le court-métrage également. Donc, dans le voir du mois dernier, il y avait une entrevue avec celle qui a gagné le prix du meilleur long-métrage. C'est Geneviève Duluth-Decelle, qui a, au départ, 5 ans après la sortie de son brillant court-métrage La Coupe, qui a été primé à Sundance. La cinéaste conclut son cycle autour des passages de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence vers l'âge adulte avec son film Une colonie. C'est le film qui a été primé. Premier long métrage de fiction qui fait suite au documentaire Bienvenue à FL. FL, c'était l'école Fernand Lefebvre à Sorel qui a déjà gagné plusieurs prix en festival. Ce sont 3 films qui se complètent et qui se sont nourris entre eux. On pourrait penser que c'est mathématique, nous dit-elle, et que je suis destinée à en parler toute ma vie, mais non. Précise en riant que son prochain projet sera complètement autre chose. Si ces jeunes sujets au cœur de Bienvenue à FL étaient à la veille de sortir de l'école secondaire, la jeune Milia, au centre de ce nouveau film, Une colonie, elle, y fait tout juste son entrée, avec toutes les angoisses que cela implique. Sa timidité est quasi maladive, mais elle cherchera les clés pour s'affranchir des rites de l'adolescence. À la maison, le noyau familial est fragile, Milia protège sa petite sœur des affres de l'adolescence qui la guette en la rejetant. Mais celle-ci a un bouclier nommé Naïveté. La comédienne Irlande Côté apporte de la fraîcheur et beaucoup d'humour ici. L'adolescence est compréhensible parce qu'on passe tous par là. Moi, je suis en plein là-dedans. Donc, j'ai bien saisi le propos du film et le personnage, dit Émilie Bière, qui incarne Milia. Presque 10 ans après ses débuts, la jeune comédienne tient ici son premier grand rôle au cinéma et elle a fait toute une première impression à son audition, ayant ému aux larmes la cinéaste et ses productrices. Émilie a souffert d'intimidation lorsqu'elle était plus jeune et est devenue porte-parole de la Fondation Jasmin Roy, indique Geneviève. Elle comprenait donc très bien les assises du personnage. Dans ma tête, c'est une petite fille un peu écorchée qui a eu de la difficulté au primaire et qui entre dans un nouvel environnement au secondaire. Le personnage porte ce bagage-là, ce traumatisme d'être en relation avec les autres, de se faire de nouvelles amitiés. Le premier regard de Milia sur les Autochtones, parce qu'elle est en contact avec des Autochtones dans le film, n'est donc pas sans rappeler celui de la cinéaste qui a grandi tout près d'Odanak. Plus tard, à l'âge adulte, Geneviève Duluth-Decelle a travaillé dans une réserve pendant 1 mois pour Wapikon Immobile et cette expérience lui a permis de développer un nouvel attachement pour les communautés autochtones. J'ai réalisé tous les biais et préjugés que j'avais quand j'étais enfant et qui étaient nourris par une méconnaissance générale de la culture autochtone. C'est d'abord ça que j'ai voulu mettre en scène. Après, c'est un sujet parfois délicat et j'ai eu des questionnements à savoir si j'allais nommer la communauté. J'ai fait lire le scénario à une amie d'amis qui vient d'Odanak. Elle me disait avoir l'impression de redécouvrir Odanak à travers les yeux d'une voisine. À l'image de son personnage central, Une colonie est un film de cœur, sensible et émouvant. Poétique aussi à certains égards, mais la réalisatrice croit avec raison que son long métrage n'est pas pour autant pointu. L'image de l'affranchissement personnel est celle de sortir du cadre imposé dans un cahier à colorier. Et preuve que cette idée est marquante, Émilie Bière s'est fait tatouer un X à l'intérieur d'un petit cercle sur son bras. C'est devenu très représentatif pour moi, dit-elle avec un grand sourire. Du moment où tu décides d'accepter qui tu es, ce que tu peux être et d'être bien là-dedans, tu peux découvrir les plus belles choses sur toi-même. Voilà, c'était un court texte pour... on parlait de la cinéaste Geneviève Duluth-Decelle qui a gagné l'Ours de Cristal pour le meilleur long-métrage film adolescent. Et il y a également, pour ceux qui s'intéressent, Sandrine Brodeur-Desrosiers qui a gagné l'Ours de Cristal pour le court-métrage jeunesse et adolescent avec son film Juste toi et moi.
Et on disait qu'il avait passé de réalisatrice, hein,
ben, c'est,
monde
c'est...
du
ben,
cinéma,
voilà.
Mais là, il y en a
deux. Il y en a qui prennent la place. Là.
Oui.
On n'a pas besoin de chercher si loin. Non, on n'a pas besoin de chercher si loin. On trouve ce qu'on veut à côté de chez soi. Des sourires, des aveux et des langues de bois qui t'alanguissent de pourris ces fonds de ton cerveau. Un joli petit brouillon. Oh, oh. L'amour, l'amour. De chercher si loin, non, on n'a pas besoin de chercher si loin. C'est être entre amis, le vrai paradis. De tribu en tribu, on a le dessus sur tout ce qui menace notre carapace. Car aux différences, nous on y pense. On pense à l'amour notre territoire. Et là tu vois, on veut pas d'histoire. On peut toujours en discuter entre tribus civilisées. D'accord pour l'amour de son prochain s'il m'est prouvé que c'est un petit peu bien. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager demain. Non, 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 il faut pas se laisser faire. La vie n'est pas un grand mystère, c'est dans l'amour de son prochain qu'il faut envisager.
Et on vient d'entendre le Paris Combo avec une pièce tout indiquée pour la suite de ce texte, On n'a pas besoin.
Oui,
ah,
oui.
Bon, c'est ça. Bon, on revient sur ce texte, évidemment. Et on lui a posé des questions un peu raides.
Là. Toujours pertinent, ce genre.
Oui, c'est ça. Pierre-Yves McSween, donc, il répond aux questions de Marc-André Sabourin, qui lui demande, êtes-vous moralisateur ou encore êtes-vous cheap? Alors,
oui.
La question...
Je me suis déjà posé la question, parce qu'il était cheap.
La question, c'est la suivante. Avez-vous l'impression que votre succès financier commence à nuire à votre message? Un peu. Je dis à la blague que je suis devenu un angry white male, tu sais, le gars privilégié de 40 ans qui l'a facile, mais qui se plaint. Sérieusement, ce qui fait que je suis bien au-dessus de la moyenne financièrement aujourd'hui, c'est la somme de mes choix et de mes chances. Oui, je n'ai plus autant besoin de me poser la question « En as-tu vraiment besoin ?» comme d'autres devraient le faire. Mais je maintiens le cap. J'ai une voiture usagée, je vis dans mon duplex. Hier, après ma douche, je me suis essuyé avec une serviette Ernst & Young que j'ai reçue quand j'ai commencé à travailler là en 2011. Je me suis dit, Pierre-Yves, cette serviette-là a 17 ans, mais elle est encore bonne. Pourquoi je la jetterais?
En 2011? Elle aurait 8 ans, sa serviette.
En 2001.
En 2001. Ah,
ah OK. Merci de me reprendre. Oui. Ah, ça a plus de sens. Oui. Avec des histoires comme celle-là, pas surprenant que certains vous comparent à Séraphin ou à Rénal dans La Petite Vie. Êtes-vous cheap? Il dit non, je suis très généreux. Si tu manges au restaurant avec moi, probablement que je vais ramasser la facture. Si tu m'invites à souper, je ne vais pas arriver avec de la piquette à 15$. Ça me gosse, cette comparaison-là, parce que les gens se mélangent. Mon message, ce n'est pas de ne plus dépenser, c'est de se dégager une marge de manœuvre. Après ça, dépense ce que tu veux. As-tu payé tes dettes? As-tu mis ton 18% de REER? As-tu des assurances? As-tu rempli le REER de tes enfants? Oui? Ben vas-y. Flamber de l'argent au restaurant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Vas-y, Coldplay au Centre Bell à 500$. Je ne suis pas le curé qui dit au monde de ne pas avoir de sexe.
Je préférerais qu'il donne de l'argent à vue et voix, moi.
Oui, c'est ça. On se sert bien. Hein?
Oui.
On va l'appeler. Vous êtes quand même très moralisateur. Il dit « j'ai pas le choix ». Quand tu vois le médecin et qu'il dit « arrêtez de fumer, sinon vous allez être malade », il te fait la morale. Mais ce qu'il te dit, c'est un fait. C'est la même chose pour moi. Les Québécois ont en moyenne 19 000 $ de dettes personnelles. Tout le monde se plaint d'être dans la marde financièrement, mais leurs choix sont incohérents. Il y a des personnes qui m'écrivent pour dire qu'elles sont dans la dèche et qu'elles ne savent plus quoi faire, mais quand je vais voir leur Facebook, c'est juste des photos de voyage en avion. Alors, dit-il, il faut faire des choix. Est-ce que c'est mal vu de s'occuper de ses finances personnelles au Québec? Là, il est un petit peu... Plus maintenant, c'est même vu de mieux en mieux. C'est à cause de lui, je ne sais pas.
Oui, prends ça avec un grain de sel. Oui, c'est comme ça. Les gens qui disaient que les étudiants, pendant le printemps érable, avaient des cellulaires, puis c'était épouvantable.
Oui, c'est ça. Ce qui est mal vu, c'est de dire « c'est pas dans mon budget ». Les gens te jugent, surtout s'ils pensent que tu en as les moyens, alors tu achètes comme si de rien n'était. Prends l'auto. Le monde me dit « Pierre-Yves, avec le salaire que tu fais, pourquoi tu roules en poubelle ?» D'abord, je dis, c'est pas une poubelle. C'est une Mazda 2012, bleue, LED, un peu bossée, mais elle roule. Un char neuf, c'est pas dans mon budget parce que le prix par rapport à l'utilité est démentiel. L'auto, c'est la place où les Québécois pourraient épargner des milliers de dollars par année en claquant des doigts. Mais il y en a qui aiment les voitures, tant pis pour eux, et merci pour moi. J'ai besoin d'eux pour trouver des voitures usagées pas chères. Souvent, les gens me disent que si tout le monde faisait ce que je dis dans mon livre, l'économie s'effondrerait. Il n'y a aucun danger. Les gens sont trop brainwashed. Alors, il termine sur cette expression. Si, est-ce que j'ai encore une demi-minute?
Oui.
Une demi-minute?
Allez-y.
On lui pose... Et on lui dit, pour nous aider à relever le défi de changer nos comportements, il suggère de faire de la prévention. Et comment le ferait-il à son avis? Il y a toujours il est assez original. Quand tu manges trop, tu vois tout de suite les conséquences. Tu prends du poids, les gens font des remarques, tu pognes moins. Mais si tu dépenses trop, personne ne va te dire, « Oh, t'es endetté, pense à ta retraite. » Si tu n'as pas d'épargne à 40 ans, personne ne va te dire, « Wake up, t'es dans la merde puis dans la vraie. » Le mur, tu vas le frapper quand tu vas avoir 65 ans et te rendre compte que ton revenu fixe est vraiment moche. Moi, pour réveiller le monde, j'emmènerai les jeunes travailleurs en visite guidée dans un quartier où les gens sont à la retraite sans épargne. Viens, on va aller voir Roger ensemble. Roger, il a eu une vie normale comme toi, mais il n'a pas épargné. Aujourd'hui, Roger ne voyage pas.
Faut nous cacher des choses, Roger.
Il n'a pas les moyens. Roger ne va pas au Tim Hortons, c'est trop cher. La seule façon de se sensibiliser à l'avenir, c'est de voir des gens qui en arrachent.
Pauvre Roger. Alors, moi, c'est la relance par les petits pots. C'est la rubrique terroir dans le magnifique livre Le Tour du Québec. C'est la maison Riviera à Sorel-Tracy et c'est un texte de Valérie Thérien. En 2015, la maison Riviera, marquenée de la laiterie Chalifoux, basée en Montérégie depuis près de 100 ans, réussissait un coup de maître, se démarquer parmi l'offre déjà assez énorme de yogourts en épicerie. Voici comment Maison Riviera a réussi son importante relance. Comment frapper un tel coup? Par la curiosité et la nouveauté, c'est-à-dire un format encore jamais vu au Québec, pourtant très répandu en Europe, le petit pot de verre. Succès fulgurant, il va sans dire, grâce à l'indéniable coup de foudre que les consommateurs ont eu pour cette gamme de produits. Kathleen Hébert, chef de marque, elle nous dit « Je pense que les gens étaient rendus là dans leurs habitudes d'achat. Les consommateurs sont de plus en plus consciencieux au point de vue éthique et environnemental. Les gens sont à l'affût de tous les aspects entourant la responsabilité sociale d'une entreprise. On a lancé la gamme de petits pots au bon moment » parce que les gens veulent réduire la consommation de plastique et aller vers un produit réutilisable. On a créé une expérience client qui se poursuit après avoir terminé le yogourt. On a aussi fait une grande campagne d'astuces de réutilisation pour offrir une seconde vie au pot de verre. La laiterie Chalifoux, poursuit Mme Hébert, est une entreprise familiale qui existe depuis 4 générations. Ça a été lancé en 1920, quand l'arrière-grand-mère Alexandrina Chalifoux vendait le lait des troupeaux de sa ferme aux villageois de Sorel. Par la suite, en 59, est née la marque Riviera, grâce au cheddar et au fromage en grains. En 2011, l'entreprise doit prendre des décisions majeures quant à son avenir. En premier lieu, il y a une certaine saturation du marché, alors que les fromageries bien établies au Québec se sont multipliées. Et une plus grande menace gronde, l'arrivée au pays de tonnes de fromages européens dans le cadre d'un projet de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Maison Riviera s'associe alors à Alsace Lait, une coopérative laitière française qui souhaite développer des produits ultra-frais au Québec. En 2014, ils ont créé une gamme complète de yogourts, de crème fraîche et de crème sûre, ainsi que du beurre. Le petit pot a été imaginé dans cette vague de renouvellement pour suggérer un produit chic, prestigieux, qui rappelle l'élégance, mais qui a aussi une valeur nostalgique. Certaines générations se souviennent des laitiers, moi je m'en rappelle, qui livraient dans des bouteilles de verre. Mmh. Ils mettaient ça sur les perrons de nos maisons.
Et ça faisait un beau son, tu entends?
Oui, ça claquait dans le... parce qu'ils emportaient 6 en même temps. Et chez nous, nous étions 6 enfants, ça faisait beaucoup de bouteilles de lait. Bon. Le petit pot était l'emblème, la façon de rentrer dans les foyers québécois. C'était important, après avoir piqué la curiosité, que le consommateur soit conquis par les ingrédients naturels. Depuis le petit pot, Maison Riviera tente d'aller chercher toutes sortes de consommateurs en multipliant son offre de produits. Au lancement des petits pots, on avait des yogourts fermes, les yogourts bio, les yogourts de chèvre. On est allé aussi vers des produits sans OGM, vu la demande grandissante. Ensuite, on a développé le fromage blanc, un produit typique français, et on l'a intégré à nos parfaits, ces desserts avec coulis. Et une nouveauté plutôt inattendue qui sera offerte, évidemment, les gens qui ne mangent pas de produits laitiers, bien, ce sera un produit pour ceux qui ont un régime végétalien. Notre défi est donc de sortir de notre zone de confort et on y va avec un produit qui a de belles propriétés nutritionnelles. Maison Riviera, un employeur important pour la région avec environ 200 employés actuellement, fait rayonner le savoir-faire de la Montérégie jusque dans l'Ouest canadien et se démarque depuis un an sur le marché ontarien. Que cette grande relance se poursuive. Et voilà, je vous parlais de la Maison Riviera, qui est une entreprise basée en Montérégie. Et allez-y, c'est tellement bon ce qu'il y a dans leur petit pot. C'est vraiment délicieux et tout crémeux.
Dans le rose à l'horizon, qui sera l'orage dans la prose du vent, quand s'épanchent les présages, qui lira la tradition, et quand j'aurai 3 fois mon âge, qui s'en balancera pour de bon. Que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joyeux d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants et qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. On court à
après le temps, mais on veut pas voir son sillage. Pas dans l'écran et pas dans les visages. Pendant que la jeunesse cherche un sens à l'histoire, l'histoire elle se berce toute seule dans les couloirs. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joaillier d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. Quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants, qui tracent la grande ours devant des yeux grands, de vieillard à mine d'or, vieillir sans être vieux. Je sais que c'est pas vrai, là je n'ai pas d'or. Et si on devenait joaillier d'années-lumière, de vieillard à mine d'or, de vieillard à mine d'or. À quand les vieux qui poussent dans les jardins d'enfants.
Et on se laisse bercer ce matin avec la douce mélodie de Ingrid Saint-Pierre, la pièce Les Joailliers, tirée de son plus récent album Petite Plage.
Très bel album à écouter, oui.
Moi, je vous parle de Rome. Il y a une fontaine, il y a une fontaine payante à Rome. Tout le monde sait ça, depuis la Dolce Vita, au moins, le film.
Fontaine de Trevi.
Oui. L'adage selon lequel, en jetant une pièce dans la fontaine de Trevi à Rome, on est assuré de revenir un jour dans la ville est si populaire que chaque année, près de 1,5 million d'euros. 2 millions de dollars canadiens sont repêchés dans son bassin.
Alors, oh!
C'est de l'argent, ça.
J'ai mis un euro, mais je peux retourner encore.
Cet argent est traditionnellement remis à une fondation catholique venant en aide aux pauvres. La ville a récemment songé à l'utiliser pour entretenir les infrastructures municipales, mais a reculé devant le tollé suscité par cette idée.
Merci, Roger. Alors, il y a une petite pause et on vous revient tout de suite après. Deuxième partie de cette émission des Voix de service, toujours en compagnie de Roger.
Oui, bonjour, Diane.
Et vous nous parlez de...
Bonjour, je vous dis qu'il n'y a pas de retraite pour moi. C'est ce que disent certaines personnes et...
Pour nous non plus.
Joanne Morancy a fait un texte là-dessus dans Le Bel Âge et elle a eu la brillante idée d'aller chercher des gens qui vivent dans la baie des chaleurs. Ça m'intéresse.
Ah, ben oui.
La baie des chaleurs. Ah,
c'est près de votre cœur, là.
Oui, c'est ça.
Oui.
Mais un autre texte que je vais vous lire tout à suite, là, c'est une variation sur le thème « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare... »
Je me console.
Voilà.
Pour moi, je vous parle de blé, de pain et d'agriculture artisanale à partir de deux textes, un dans Le Tour du Québec et l'éditorial de Robert Dutrisac dans Le Devoir de samedi.
Éditorial du rédacteur en chef de l'actualité, le numéro du mois de mars, c'est Charles Grandmont qui le signe. Les inégalités, ça se combat. L'époque est tellement chargée de mauvaises nouvelles qu'il est facile de louper celles qui peuvent nous redonner un peu d'espoir. Tenez, en janvier, l'ONG Anti-Pauvreté Oxfam International dévoilait son très sombre rapport annuel sur les inégalités. Accrochez-vous, ça donne le vertige. Le 1% le plus riche de la planète a monopolisé 46% des richesses produites l'an dernier. Les 26 personnes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Un nouveau milliardaire apparaît tous les deux jours. Les inégalités ne sont plus contrôlables. Le modèle néolibéral attise la colère partout dans le monde, s'alarme la directrice d'Oxfam International, l'Ougandaise Winnie Byanyima. Il est urgent, dit-elle, que les États rétablissent une meilleure justice fiscale entre les mieux nantis et les plus pauvres. Le portrait dessiné par Oxfam a certes de quoi nous faire broyer du noir. Le taux d'imposition des entreprises est à la baisse, le recours aux paradis fiscaux ne cesse de croître, ce qui laisse les gouvernements à court d'argent pour financer les services publics tels que la santé et l'éducation, pourtant les clés pour réduire la pauvreté et les inégalités. Mais ne désespérez pas. Il est possible pour un gouvernement d'aller à contre-courant grâce à ses choix politiques, et la preuve se trouve pas plus loin qu'au Québec, comme est venu le confirmer il y a quelques semaines la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Je sais, nous sommes davantage habitués à grogner contre nos services publics qui semblent s'en aller à volo, faute de ressources, et à voir les augmentations de salaire consenties aux médecins qui forment la moitié du 1% les plus riches du Québec, on n'a pas l'impression que les écarts de revenus rapetissent. Mais les conclusions de l'économiste Luc Godbout et de son équipe sont limpides. Quand on tient compte des effets sur les revenus de chacun des sur le revenu de chacun, de l'impôt payé et des allocations reçues, le Québec est un des endroits les plus égalitaires au monde. Le secret? Un bon dosage depuis 40 ans de politique fiscale et sociale qui place le Québec au 11e rang du palmarès des 36 États membres de l'OCDE, tout juste derrière la Suède, et bien en avant du Canada qui se classe en milieu de peloton. Bon, certains diront qu'il est possible de faire mieux encore, et ils auront raison. En Islande, champion mondial de l'égalité, l'écart des revenus est moindre de 15% par rapport au Québec. D'autres soutiendront que nous payons déjà trop d'impôts au Québec et qu'il faut d'abord donner de l'air aux contribuables. Il est vrai que le Québec est l'endroit en Amérique du Nord où la pression fiscale est la plus forte. La part du PIB prélevée par le fisc sous toutes ses formes y est de 37,3%, mais elle n'est pas si éloignée de la moyenne des membres de l'OCDE, qui est de 34,2%, et encore bien loin de la France, 46,2%, où les Gilets jaunes se sont révoltés contre les iniquités fiscales. Et j'ajoute une dernière nouvelle encourageante avant de vous laisser retourner aux nouvelles moches. Les paradis fiscaux font moins de dommages au Québec qu'ailleurs dans le monde, selon une étude menée par l'économiste Julien Martin de la chaire de recherche de l'UQAM sur les répercussions locales des firmes multinationales. Les entreprises québécoises réussissent à soustraire en moyenne 5% de leurs impôts à payer au moyen de l'évitement fiscal, selon le chercheur, comparativement à 7% pour les entreprises canadiennes et à 20% pour les américaines. Les multinationales québécoises réduisent ainsi leur facture fiscale mondiale d'environ 350 millions de dollars. C'est certes considérable, mais le combat pour contrer cette détestable pratique y apparaît moins titanesque qu'ailleurs. Des bonnes nouvelles parmi les mauvaises.
Oui.
Oui, c'est l'éditorial de Charles Grandmont.
D'où la comparaison.
C'est ça.
Alors, je reviens dans le terroir de la Montérégie pour vous parler des moulins de Soulanges à Saint-Polycarpe. C'est un texte signé Sophie Ginoux. La renaissance du blé. Après avoir presque disparu des champs, le blé panifiable du Québec a aujourd'hui le vent dans les voiles grâce au travail de longue haleine mené en collaboration par Première Moisson et les moulins de Soulanges. Voici le grand retour dans la belle province de cette céréale et de son impact positif sur l'environnement. Des champs de blé à perte de vue, c'est ce que connaissait le Québec au 17e et au 18e siècle. Un âge d'or qui a cessé au début du 20e siècle, lorsque les plaines de l'Ouest ont été considérées comme plus profitables pour cette culture. Peu à peu, les poches de blé qui nourrissaient les moulins du Québec se sont taries, à tel point qu'on avait presque oublié qu'on en avait produit. C'est donc avec stupeur que Bernard Fizet, boulanger et cofondateur de la boulangerie Première Moisson, a vu un beau jour, en 2005, arriver dans son bureau Loïc Desouavrin, son voisin agriculteur, avec une petite poche de grains de blé qu'il venait de récolter. « Mon frère était désarçonné », confirme José Fizette, qui est la sœur, cofondatrice et présidente de l'entreprise. « Nous cherchions depuis longtemps une solution pour pallier l'uniformité du blé que nous importons de l'Ouest, dont les caractéristiques rendaient les croûtes de nos pains caoutchouteuses quand le taux d'humidité est plus élevé. » De ça peut-être est alors née l'idée un peu folle d'ensemencer un lopin de terre avec du blé qui permettrait d'améliorer les recettes de pain de première moisson. Et les résultats ont été si concluants qu'au bout de 2 ans, Bernard Fizette s'est assis avec Robert Beauchemin, un meunier qui fournissait déjà à l'entreprise en farine biologique à travers la Milanaise, avec une idée plus folle encore, fonder un moulin qui travaillerait seulement avec des agriculteurs québécois et avec une approche environnementale répondant aux standards. Changer la mentalité et les habitudes d'agriculteurs qui ont depuis des dizaines d'années travaillé leur terre de manière conventionnelle en utilisant des pesticides ne se fait pas en un clin d'œil. Leur proposer en plus de produire du blé panifiable, ce qu'ils ne faisaient plus depuis près d'un siècle, relevait du défi. Mais la conviction profonde que Bernard Fizet et Robert Beauchemin nourrissaient pour le projet s'est révélée communicative. 12 agriculteurs se sont joints à eux en 2007. Ils sont plus de 300 aujourd'hui à avoir embrassé la voie de l'agriculture raisonnée, dont le principe repose sur la réduction, voire l'élimination des pesticides dans la production. Ça répond à nos valeurs profondes chez les Fizettes. Notre mère a grandi sur une ferme, alors, pendant notre enfance, nous n'avons jamais eu aucune conserve ni aucune sauce ou céréales du commerce à la maison. Nous avons donc, dès le début, voulu, avec Première Moisson, intégrer ces principes naturels à nos produits. Il était fondamental pour nous que nos farines soient sans additifs, que la fermentation et le pétrissage de nos pains soient réalisés de manière artisanale par de vrais boulangers. Les moulins de Soulanges ont constitué, en ce sens, une des plus belles réalisations, car ils conjuguent notre souci de qualité et de traçabilité, le profond respect que nous avons pour notre métier et nos collaborateurs, et notre désir d'encourager l'environnement. Depuis 2007, les moulins de Soulanges ont multiplié par 30 leur capacité de production. Avons-nous accompli un petit miracle? Peut-être, dit José Fizette. Grâce aux moulins de Soulanges qui nous fournissent maintenant plus de 80% de nos farines, nous avons rendu des agriculteurs, des boulangers et des consommateurs heureux. Comme quoi innover, encourager la production locale et les pratiques environnementales peut être payant et gourmand. C'était un texte qui nous parlait des moulins de Soulanges en Montérégie. C'est signé Sophie Ginoux, publié dans le Tour du Québec. Et tantôt, je poursuivrai avec justement, est-ce que les lois et les règlements du Québec vont suivre pour aider à cette production d'agriculture artisanale?
Un vieux complet de vieille savate, avec quoi on ne peut plus draguer. Un col roulé comme une cravate, un vieux pardingue pour se nicher. Un bout de chaussée à s'arrayer dans les vitrines où y a que du vent. Un pauvre nuage qui va crever, c'est la retraite et c'est le printemps. Et ces pauvres gens qui font la queue pour des plaisirs qu'on peut faire voir, cet opium qu'on fume par les yeux dans les cinoches qui font le trottoir comme les tapins de publicité. Qu'on leur bastringue en papier peint, histoire de montrer du péché aux passants qu'ont plus les moyens. Une vieille histoire à raconter à une nana qu'a plus de zizi, un petit carnet pour y compter des trucs qui valent pas, un radis, une canne à pêche à dépister, de quoi faire une friture vite fait, le soleil qui est pas dégoûté. C'est la retraite et c'est l'été. Tous ces pauvres gens qu'on voit traîner à la queue des allocations, avec leurs mains à se rembourser, les enjures de la mauvaise saison, comme des rapaces qu'auraient plus de bec, des lions qui seraient faits péder. Sans crinière, sans salam alek, avec un bout de griffe pour signer. Un vieux sapin pour faire son rond à l'hôtel de la dernière nuit. 10 mots latins pour l'addition, c'est pas de l'argot, mais ça suffit. Et puis le curé qui fait la manche avec son pote yes, il a. Il n'y a pas qu'au Guignol qu'il y a des planches, il y en a aussi dans ces coins-là. Et ces pauvres gens qui font la queue pour mieux pousser les fleurs des champs, se font deux trous dans leurs beaux yeux, et de leurs lèvres font des dents pour mieux voir ce qu'on ne voit pas, pour mieux baiser le rien. Et rendre leur dernier repas celui dont ils n'ont plus besoin.
Extrait de son album Ferré 64, le grand Léo Ferré, sa poésie et la pièce Les Retraités.
Merci.
Oh, c'est moins triste ce que je vais vous raconter.
C'est l'entrée en matière de contexte.
Si plusieurs rêvent, une fois l'heure de la retraite sonnée, de ralentir, voyager, s'investir bénévolement, d'autres n'en sentent tout bonnement pas l'appel. Qui sont-ils? Joanne Morancy a écrit ce texte dans Le Bel Âge. Ne plus avoir d'horaire à respecter, ni à se casser la tête pour régler les problèmes du boulot. Perspective alléchante pour une bonne part d'entre nous quand on imagine la retraite. On anticipe avec plaisir les matinées à lire ou à faire du vélo. On envisage de suivre des cours, de faire du bénévolat, de se remettre au piano ou de voyager un peu. Mais tous n'ont pas cette même vision du futur. Certains ne se lasseront jamais de leur travail, d'autres le quitteront pour une nouvelle carrière. Question de finances souvent, mais aussi parfois de tempérament, de vocation ou de passion. Portrait de 4 de ces passionnés qui ne se voyaient pas arrêter. Et ces portraits, elle a eu la bonne idée de les choisir dans l'unique baie des Chaleurs, 2 Gaspésiennes et 2 Acadiens. Gilles est maître affûteur. Si son père était un as de la vente, Gilles, pour sa part, se demande plutôt s'il peut réparer un objet avant de le jeter pour acheter du neuf. « J'aime procurer une deuxième vie aux choses », confie cet homme très engagé au sein de sa communauté de Grand-Anse, en Acadie. Après avoir œuvré pendant 20 ans dans son propre atelier de menuiserie, Gilles est devenu consultant en environnement auprès du gouvernement. Puis, aux abords de la 60aine, il commence à jongler à une activité utile à mettre en place et décide de démarrer une entreprise d'affilage de couteaux et de ciseaux. Le moment venu, il fait ses recherches et acquiert les outils nécessaires. C'est ainsi que depuis 7 ans, Affilage exact redonne des lames qui coupent aux cuisines des restaurants et des maisons de la région. Je réalise cette tâche en m'amusant. Ça me permet de rencontrer des gens, de jaser avec l'un et avec l'autre, tout en étant productif. Mais voilà ce qui n'était pas assez. À 67 ans, il se présente à la mairie de Grand-Anse. J'avais envie de mettre à nouveau l'épaule à la roue. J'exerce maintenant la fonction de maire, ce qui prend beaucoup de mon temps. Je suis comblé. Mais il conserve quand même son entreprise d'affilage exact. Jacinthe, maintenant, elle, c'est une Gaspésienne. Travailleuse sociale pendant une 30aine d'années dans le réseau de la santé en Gaspésie, principalement auprès des familles et des jeunes, Jacinthe aimait le contact avec la clientèle. Cette habitante de Passepébiac s'est beaucoup investie dans son travail et est devenue cadre au CLSC avec la responsabilité du programme Famille, Enfance, Jeunesse. À l'âge de 58 ans, elle opte pour la retraite. Mais après un an de congé, des occasions se présentent et Jacinthe reprend du collier. L'Université du Québec à Rimouski est venue me chercher pour superviser des stages d'étudiants en Gaspésie. Par la suite, une clinique privée en relation d'aide m'a invité à rejoindre l'équipe pour intervenir auprès des couples. L'ancienne retraitée de 66 ans travaille 5 à 15 heures par semaine, selon la demande. Je pense que je n'avais pas bouclé la boucle, je sentais que j'avais encore de quoi offrir dans l'accompagnement aux personnes en détresse. Autre Gaspésienne, Joanne, celle-là, elle est de Saint-Omer. Elle a travaillé pendant 25 ans comme secrétaire, puis ensuite elle a senti l'appel de l'art. Elle s'offre une année sabbatique pour jouer à l'artiste et se monter une production. Elle constate alors que ses toiles ont du succès jusqu'en Ontario. Et quand est venu le temps de renouveler sa demande de congé sabbatique, on le lui a refusé. Alors elle a pris sa retraite et est devenue artiste peintre pour de bon. Elle travaille d'arrache-pied. Ses œuvres sont exposées dans les galeries à Québec et à Montréal, puis à travers le Canada, au New Jersey et même en France, au Carrousel du Louvre. Dernier, c'est un Acadien, celui-là. Oui, celui-là, il fait des choses qui seraient intéressantes. Je suis sûr que Diane serait intéressée. Jacques l'apiculteur. Lui, c'est les abeilles. Et il faisait ça pendant qu'il était professeur. Là. Il a commencé avec une petite fermette, puis aujourd'hui, il a son... Comment on appelle ça? Son essaim d'abeilles, enfin. À 74 ans, toujours fasciné par les abeilles, Jacques ne cesse d'être en mode développement de son entreprise. Je n'envisage pas de prendre ma retraite. Jamais je ne peux imaginer que ce serait ma vie sans la miellerie. J'aime la rencontre avec le public et c'est très satisfaisant de voir du monde de l'Ontario ou du Québec revenir ici chaque année pour se procurer sa réserve de miel. Je resterai apiculteur jusqu'au bout.
Merci, hein? Roger.
Ça, c'est de la détermination.
C'est oui. Alors, nous parlions de blé panifiable. Ben, je poursuis avec Robert Dutrissac dans Le Devoir de samedi. Le Québec à la traîne en agriculture artisanale. De l'allocution du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, devant les membres de l'Union paysanne il y a une semaine, on a retenu sa déclaration maladroite sur les ayatollahs du ministère de l'Environnement. Or, le ministre a surtout ouvert la porte à des changements majeurs et hautement souhaitables dans le domaine agricole en affirmant que son étoile du Nord, sa source d'inspiration, c'était le rapport Pronovo. En 2008, Jean Pronovo, qui présidait la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois, a produit un rapport qui en appelait à une petite révolution. Outre une révision en profondeur de l'aide étatique, il recommandait au gouvernement de mettre fin au monopole syndical de l'Union des producteurs agricoles, ou l'UPA, afin de permettre la fondation d'autres associations et surtout l'émergence de petites fermes offrant des produits de niche, notamment biologiques, sur place ou par des circuits courts de distribution. Le constat que Jean Pronovo faisait, c'est que le secteur agricole risquait d'étouffer sous les lois et règlements et que même s'il fallait préserver les piliers du système, il importait de lui insuffler de l'oxygène et il poursuivait en disant « ouvrir à une mise en marché qui favorise, par le foisonnement des initiatives, des produits agricoles différenciés ». Le gouvernement libéral n'a pas eu le courage d'abolir le monopole de l'UPA, un geste jugé suicidaire sur le plan politique, et pour le reste, les recommandations du rapport Pronovo sont restées lettres mortes. Le secteur agricole demeure sclérosé, toujours aussi axé sur la production de masse et les monocultures, avec des lois et règlements qui rendent extrêmement difficile d'exploiter une ferme diversifiée. En 2015, Dominique Lamontagne, qui a voulu se lancer dans le domaine agricole, publiait un livre sur l'impossibilité de pratiquer l'agriculture artisanale au Québec. Le titre de l'ouvrage que le ministre du même nom a dit avoir lu, « La ferme impossible ». La coalition Avenir Québec s'est engagée à ne pas toucher au monopole de l'UPA, ce qu'André Lamontagne a reconnu d'emblée. Mais il était tout de même le premier ministre de l'Agriculture à se présenter à un congrès de l'Union paysanne, un regroupement de quelques centaines d'irréductibles qualifiés d'amateurs par les fermiers industriels. Le ministre a dit qu'il voulait faire de la place à l'agriculteur artisan et favoriser la vente à la ferme et les circuits courts, ce que le rapport Pronovo considérait comme une voie d'avenir. Il n'y a pas d'ayatollah au ministère de l'Environnement, mais des règlements qui ne sont aucunement adaptés à l'agriculture artisanale, tout comme au MAPAC. Traînant de la patte, le Québec n'a pas encore pris le virage de cette agriculture de proximité, à valeur ajoutée, plus écologique et propice à une saine occupation du territoire. il était plus que temps qu'un ministre de l'Agriculture en fasse une priorité. Ben, c'est les Moulins de Soulan, je pense qu'il va être content de lire cet éditorial ce matin, qui est signé Robert Dutrissac. Il était publié dans Le Devoir de samedi.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire.
Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.
Sur les ondes de Canal M.
Je tiens à souligner la pertinence des choix musicaux de notre Jean-Sébastien à la régie, qui est capable de regrouper la retraite, la terre, le retour à la terre, l'agriculture et tout et tout.
Et
la,
ouais, et
chapeau, Jean-Sébastien.
Bon, alors, une petite brève?
Ben oui.
Petite brève.
On en a quelques-unes.
Une équipe de chercheurs anglais et finlandais a voulu déterminer la quantité de virus respiratoires, la grippe et le rhume, par exemple, qu'on trouve dans un aéroport. Je l'ai bien dit, oui.
Il doit en avoir beaucoup.
Étonnamment, ils n'en ont trouvé aucun dans les toilettes. À l'aéroport d'Helsinki, l'équipe a cependant relevé des traces de virus sur la moitié des échantillons prélevés dans les bacs de plastique du contrôle de sûreté, qui sont manipulés par presque tous les passagers et ne sont pas régulièrement désinfectés. On recommande donc d'utiliser un désinfectant pour les mains.
De porter des gants.
Et porter des gants et avoir des souliers faciles à enlever ou quand on voudrait contrôler, après les contrôles.
Oui. Alors, je parlais de blé panifiable et d'agriculture raisonnée. Ben, toujours en Montérégie, si vous allez sur la route, mais ils ont aussi cette boulangerie est à Montréal également. Ça s'appelle Le Pain dans les Voiles. Depuis 2009, boulangerie située au pied du Mont-Saint-Hilaire et dont le nom est inspiré par la passion commune des propriétaires pour la voile, offre des produits d'une rare qualité, remportant même en 2011 le second prix pour la meilleure baguette au Mondial du pain. Les Voiles, deux succursales, une ont ouvert à Montréal, puis une troisième à Saint-Bruno. On s'y arrête pour dîner d'un sandwich ou de pizza avec des saveurs atypiques. La gourmandise, on peut s'aider en combinant l'expresso, les scones ou les clafoutis. Voilà, si vous voulez vous régaler, allez voir Le Pain dans les Voiles.
Bon, alors, parlant de pain, là, les Français ne veulent pas des miettes. Ils veulent la baguette au complet. Ça, c'est les gilets jaunes.
Merci, Roger. Alors, c'est ce qui m'est fait à l'émission. Je serai absente. Roger va prendre le relais au micro à ma place parce que je suis absente la semaine prochaine. Oui. Et pour les auditeurs qui sont à notre écoute depuis un petit moment, Franceline a gentiment accepté de me remplacer la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Au revoir.